Les pathologies respiratoires chez l'enfant obèse, c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, puisque malheureusement, l'obésité chez l'enfant, c'est quelque chose qui est une vraie épidémie. Et avant de commencer, je voudrais vous rappeler que quand on parle d'obésité chez l'enfant, c'est relativement plus compliqué que chez l'adulte, puisque on ne peut pas se baser sur des chiffres simples de BMI. On est obligé de se reporter à des ABAC et à vérifier les percentiles, en sachant que au-delà de 85 percentiles, on est en surpoids, et qu'au-delà de 95, on est obèse quand on est un enfant. Sachant aussi que les enfants ont en général un BMI qui, normalement, doit être beaucoup plus petit que celui des adultes. Donc la prévalence de l'obésité, tout le monde parle de l'épidémie d'obésité. Et aucun des pays autour de la Méditerranée n'est épargné. Par exemple, quand on voit le Liban, chez les enfants entre 6 et 19 ans, on s'aperçoit qu'il y a un taux d'obésité et de surpoids qui est relativement élevé, qui varie avec l'âge, avec un pic autour de 10-13 ans, avec 47% quand même de surpoids. Donc vous avez un enfant sur deux qui est en surpoids. Et puis 23% des enfants qui sont obèses, chez les garçons en tout cas. Et c'est quand même quelque chose d'important de savoir qu'un enfant sur quatre est obèse. Par contre, quand on voit en fonction du sexe, on s'aperçoit qu'il y a une différence assez marquée. Et je crois que vous l'avez tous remarqué, les femmes libanaises sont extrêmement jolies. Et donc il doit y avoir une grosse pression, puisque la fréquence de l'obésité et du surpoids est plus bas chez les filles. Et il est réduit à 2% à 18 ans. Donc il y a quelque chose sur le plan social qui est important. Alors, les facteurs de risque associés à l'obésité au Liban, chez l'enfant, c'est d'être un garçon, et là on l'a vu, d'avoir une maman qui travaille, de résider à Beyrouth et pas dans les zones rurales, et puis ce qui va avec, c'est-à-dire la sédentarité et la forte consommation de fast-food et de boissons sucrées. C'est un petit peu différent de ce qu'on a chez nous, puisqu'en Tunisie, le premier facteur de risque, c'est d'appartenir à une classe aisée, économiquement aisée, et ça, c'est complètement différent de ce qu'on voit dans les pays développés, où ce sont en général les classes les plus pauvres qui ont le plus d'obésité. Puis après, bien sûr, il y a l'obésité parentale, les boissons sucrées, le pain, la sédentarité et l'allaitement artificiel, qui, je vous le rappelle, est aussi un facteur de risque pour l'asthme. Donc, avant de passer à notre propos, je voudrais rappeler qu'en dehors des manifestations pulmonaires qui nous intéressent directement, qui sont l'intolérance à l'exercice, les apnées obstructives et l'asthme, il y a énormément d'autres répercussions liées à l'obésité et qu'on remarque plus le temps passe chez les enfants. Donc, en dehors des atteintes pulmonaires, il faut qu'on pense aussi aux atteintes musculo-squelettiques. C'est des enfants qui ont souvent mal aux muscles, qui ont mal aux jambes, qui ont mal aux os. Des répercussions gastro-intestinales avec un reflux qui est très fréquent. Des répercussions cardiovasculaires très précoces, en dehors de toute hyperlipémie. Et puis, des manifestations psychologiques, essentiellement des dépressions et des troubles du comportement. Commençons par l'intolérance à l'exercice. Vous savez que la plupart des enfants obèses sont des enfants qui ne veulent pas bouger beaucoup. Alors souvent, ils disent qu'ils sont fatigués, qu'ils sont essoufflés. On les voit quand ils jouent au foot, ils sont gaules. Quand il y a de la gymnastique à l'école, ils sont souvent assis. Ce sont eux qui vont chercher les sandwichs. On pense souvent que c'est un problème uniquement respiratoire et on a tendance à les explorer uniquement sur ce versant-là. En fait, quand on les explore sous ces enfants qui ne veulent pas bouger, qui ne font pas de sport, on s'aperçoit qu'il y a rarement des déficits cardiaques ou pulmonaires. Très souvent, ils ont une fonction respiratoire qui est absolument normale. Vous voyez ici que la ventilation maximum minute est absolument normale chez ces enfants, et donc ils ont suffisamment théoriquement de réserves pour pouvoir avoir une activité physique normale. Cependant, quand on regarde la consommation d'oxygène, on s'aperçoit qu'en fait, ce sont des patients qui ont une mauvaise adaptation à l'effort et que, en fait, ce qui les limite, c'est essentiellement le fait d'être déconditionné à l'effort. Ils rentrent dans une sorte de spirale négative. Ils ne peuvent pas courir parce qu'ils sont un petit peu gros, ils sont essoufflés, ils ont mal. Ils arrêtent de faire du sport et sont de plus en plus handicapés à l'effort. Ceci dit, il ne faut certainement pas passer à côté d'une altération de la fonction du cœur gauche, parce que ce sont des enfants qui, en dehors de toute anomalie lipidique, vont avoir des troubles cardiaques, des troubles du rythme avec une bradycardie et des anomalies des réflexes barométriques. Est-ce que ça veut dire pour autant que ce sont des enfants qui ne font pas d'asthme et que tout est à rapporter au déconditionnement physique? Certainement pas. Comment faire la part des choses chez ces enfants? Est-ce qu'il s'agit d'un vrai bronchospasme à l'exercice, donc un asthme, ou simplement d'une dyspnée liée à l'obésité? Alors, c'est une étude qui a été faite chez des enfants qui étaient soit connus asthmatiques obèses, soit asthmatiques non obèses, ou obèses simples, ou à poids normal et sans asthme. Et ce qu'on remarque, c'est que en fait, la fréquence du bronchospasme à l'exercice ne varie pas en fonction de l'obésité. Il y a autant de bronchospasmes chez les sujets asthmatiques obèses que chez les sujets non obèses. Par contre, ce qui est différent, c'est qu'il faut un bronchospasme qui est plus sévère. Ce que vous voyez ici, la variation est beaucoup plus importante chez les sujets obèses que chez les sujets non obèses et que ça dure plus longtemps, comme le montre l'air sous la courbe. Donc en fait, effectivement, ce sont des enfants qui font, quand ils sont asthmatiques, et seulement quand ils sont asthmatiques, des bronchospasmes à l'exercice, mais ce sont des bronchospasmes qui sont relativement plus sévères. Donc, intéressons-nous à la prévalence maintenant de l'asthme et des sifflements chez l'enfant obèse. Et là, on va regarder les données de l'étude ISAAC, donc les grandes études mondiales qui a recherché les liens entre l'asthme, l'allergie et les autres facteurs chez les enfants. Eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, l'obésité et le surpoids sont corrélés avec la présence de sifflements dans l'année antérieure. Donc, vous voyez ici, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, quand on dépasse un BMI prévu de 20, progressivement, on a une augmentation de la fréquence et qui augmente beaucoup plus rapidement quand on avance vers une obésité plus importante. Et ce qui est important, c'est que l'index de masse corporelle est corrélé au déni de la fonction respiratoire avec un bronchospasme qui est plus important quand on a un BMI plus élevé. Ceci dit, ce que je vous montre là, ce sont des courbes moyennes. Et en réalité, les associations entre sifflement et BMI sont beaucoup plus marquées dans les pays riches que dans les pays pauvres. Par ailleurs, la prévalence de l'obésité est différente. On s'aperçoit qu'à Mumbai, il y avait 0% d'obésité chez les enfants qui avaient été testés, alors qu'au Brésil, dans cette ville, il y avait 11% d'enfants obèses. Par ailleurs, évidemment, dans les pays méditerranéens, on avait une prévalence élevée d'obésité. Depuis qu'on ne mange plus selon notre tradition alimentaire. Donc ça, c'est une autre façon de présenter les choses. Vous avez ici les odds ratio, le risque quand on a obèse d'avoir un asthme. Et on s'aperçoit effectivement que c'est dans les pays scandinaves que la relation est la plus forte, alors que, par exemple, en Turquie, on ne retrouvait pas du tout cette corrélation. Il n'y a pas que le fait d'être obèse en soi qui augmente le risque de sifflement, mais c'est aussi la façon dont on prend du poids. Les enfants qui prennent du poids le plus rapidement ou qui prennent beaucoup de poids en intra-utérin sont ceux qui sont le plus exposés à faire des sifflements. Et là, vous avez les enfants qui sont nés avec une macrosomie, donc avec un gros poids de naissance. On s'aperçoit qu'ils ont un risque de 1,2 par rapport aux sujets qui sont nés avec un poids normal. De la même façon, quand on prend des prématurés et qu'on les fait grossir rapidement pour retrouver un poids normal, et c'est souvent le problème des mamans, quand est-ce qu'il va retrouver un poids normal, on s'aperçoit que le risque devient de plus en plus élevé de siffler. Donc, non seulement il faut faire attention aux enfants quand ils sont d'âge préscolaire ou plus tard, mais aussi quand ils sont in utero et après la naissance, juste après la naissance. Est-ce que c'est associé à l'allergie? Visiblement pas, puisque le risque de sensibilisation allergique chez les enfants asthmatiques obèses est inférieur à celui des sujets qui ont un poids normal. Donc vous voyez ici que le risque d'atopie est divisé par deux quand on prend des enfants asthmatiques obèses par rapport à des enfants asthmatiques de poids normal. Et que la corrélation avec le syndrome obstructif est plus importante chez les enfants qui ne sont pas atopiques que chez les enfants qui sont atopiques. Donc, a priori, l'obésité et l'atopie ne sont pas associées dans le risque d'asthme, il y aurait même plutôt une dissociation. Est-ce que pour autant ça veut dire que l'obésité, ça protège de l'atopie? Probablement pas, puisqu'il y a des relations qui sont plus compliquées avec un risque de dermatite atopique qui serait plus élevé chez les enfants obèses. Donc si ça n'est pas corrélé à l'atopie, à quoi est corrélé l'asthme chez ces enfants? Eh bien, il est corrélé essentiellement à une obésité centrale. Donc ce sont les enfants qui ont un gros ventre, qui sont le plus à risque, comme chez les adultes, de développer des sifflements. Est-ce que la fonction respiratoire explique tout? Bien curieusement, non. Bien que les enfants qui soient asthmatiques, obèses, vous l'avez, j'imagine, remarqué dans vos consultations, soient des enfants qui ont du mal à faire des efforts, qui sont souvent gênés et dont les parents disent il tousse souvent, il est souvent essoufflé, eh bien leur fonction respiratoire est absolument dans les normes. Ce ne sont pas des enfants, quand on les compare aux autres asthmatiques, qui ont des données différentes. Ils ont un VEMS qui correspond à ce qu'on trouve chez les enfants de poids normal ou même un meilleur VEMS, la même chose pour la capacité vitale ou pour les résistances. Par contre, et c'est ce qui est retrouvé aussi chez l'adulte, c'est qu'ils ont une capacité résiduelle fonctionnelle, donc un état d'équilibre du poumon qui est réduite, ce qui est un peu surprenant, et c'est lié à une diminution de volume résiduel. Donc ils sont des enfants qui en fait ont des poumons qui respirent à un niveau un peu plus bas que les sujets normaux. Donc malgré ces résistances qui sont normales, ce syndrome obstructif qui est comparable à ce qu'on trouve chez les enfants non obèses, ce sont des enfants qui vont se plaindre beaucoup de leur dyspnée et qui vont avoir une consommation de soins qui est très élevée. Et là, par exemple, on va voir que ce sont des enfants qui vont beaucoup plus souvent consulter. Et c'est corrélé à la sévérité de l'obésité. Ils vont avoir plus recours aux consultations, ils vont avoir plus recours aux urgences, ils vont avoir plus souvent une corticothérapie orale. Cependant, ceci n'est absolument pas associé à des hospitalisations plus élevées. Ce sont des enfants qui sont hospitalisés dans les mêmes pourcentages que les autres enfants. Et ça reflète probablement le fait que ce sont des enfants qui ne sont pas plus graves, mais qui ont probablement une sensation de dyspnée plus élevée. Il n'y a pas d'argument objectif pour dire qu'ils sont plus graves. Simplement, ils ressentent plus leur dyspnée. Et c'est probablement associé à différentes choses. Probablement les comorbidité, c'est-à-dire les atteintes ailleurs, mais aussi à un problème psychologique associé. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette association entre l'asthme et l'obésité? Alors, peut-être un terrain génétique, il y a des gènes qui ont été décrits dans les deux, mais comme vous le savez, la génétique de l'asthme, c'est encore quelque chose de très complexe. Par contre, il y a des facteurs plus palpables qu'on peut retrouver tout de suite. Et le premier, c'est la prise d'antibiotiques. Vous savez qu'on décrit une forte association entre la prise précoce d'antibiotiques et l'asthme. Bien là, on s'aperçoit que, en fonction de la précocité de la prise d'antibiotiques, on va avoir un risque d'obésité plus élevé. Vous avez ici, en fonction de l'âge de la première prise d'antibiotiques, le risque de développer une obésité. Et vous voyez que si on a des antibiotiques avant l'âge de 6 mois, on va avoir un risque d'obésité beaucoup plus important. Pareil, plus on est exposé aux antibiotiques, plus on reçoit d'antibiothérapie, et plus on a un risque de développer une obésité. Par ailleurs, c'est aussi un certain type d'antibiotique qui est particulièrement incriminé, et ce sont les macrolides. Alors, de cette étude, qu'est-ce qui découle ? Il découle d'abord une remarque qui est que chez les petits, avant l'âge de 6 mois, en général, quand ils reçoivent des antibiotiques, ce sont pour des infections respiratoires. Et les infections respiratoires les plus fréquentes, ce sont les bronchiolites, et les bronchiolites, c'est viral. Donc c'est une antibiothérapie qui n'a probablement pas lieu d'être, mais qui aussi reflète probablement le fait qu'on a un terrain prédisposé, puisque ce sont des enfants qui font des infections respiratoires récidivantes. Par ailleurs, cette antibiothérapie va agir sur la flore bactérienne au niveau du tube digestif. Or, vous le savez, la flore bactérienne, c'est elle qui détermine notre immunité. Vous avez ici les facteurs qui vont modifier la flore bactérienne digestive chez le bébé. Et vous voyez qu'on a des choses en commun entre l'asthme et l'obésité. C'est l'exposition aux antibiotiques, le mode de naissance et les césariennes sont aussi un facteur de risque pour l'asthme, l'alimentation artificielle. Et donc cette modification de la flore bactérienne digestive va augmenter de beaucoup le risque d'obésité chez l'enfant. Et ceci, par le biais de modifications au niveau de la modulation immunitaire, puisqu'on va avoir des choses différentes qui vont se faire, une modification de la flore avec une présence, par exemple, de staphylocoque qui va produire des endotoxines, ça va activer de façon polyclonale les IgE et donc le système immunitaire, et ça peut être responsable d'asthme. Vous savez que dans l'asthme particulièrement sévère, le staphylocoque est incriminé, et l'allergie. Donc ça serait une question de métabolisme immunitaire avec une dysrégulation, une explosion des phénomènes inflammatoires avec les TH17 et une baisse de la régulation avec les IL-10. Donc on va avoir une augmentation des TH1, une baisse des TH2, une diminution des T régulateurs puisque l'adiponectine qui est la modulation du système immunitaire par le système lipidique et par contre une augmentation des phénomènes pro-inflammatoires. Et à l'inverse, quand on perd du poids, on perd des phénomènes inflammatoires. Le troisième problème que posent sur le plan respiratoire les enfants en surpoids, ce sont les apnées du sommeil. Quand on fait un screening en population générale chez les enfants obèses qui sont considérés sains, on s'aperçoit qu'on a énormément de pathologies du sommeil. On va avoir 31% de ronfleurs simples, mais on va avoir 17% d'apnée du sommeil sévère. Et si on fait un total, on va obtenir à peu près 30% de ces enfants qui sont des enfants apnéiques du sommeil, alors qu'ils sont reconnus comme étant des enfants normaux. Et je vous rappelle que classiquement, chez les enfants, l'apnée du sommeil, ça ne survient pas chez des enfants obèses, ça survient chez des enfants minces. C'est lié à la présence d'une hypertrophie des végétations adénoïdes et des amygdales. Et ce sont des enfants qui sont extrêmement hyperactifs et qui sont insupportables et qui n'ont pas du tout de somnolence. Eh bien, à l'inverse, ces enfants obèses vont avoir très peu d'anomalies crânio-faciales ou d'hypertrophie des végétations et des amygdales. De ceci découle que ce sont des enfants qui ne vont pas bien répondre au traitement. Alors, qu'est-ce qui explique l'apnée du sommeil chez ces enfants? Eh bien, en fait, c'est l'infiltration graisseuse qu'on a autour du pharynx et des voies aériennes supérieures qui vont aboutir à une augmentation de la collapsibilité du pharynx. Donc, vous voyez, ils ont ici ces dépôts graisseux qui vont favoriser un collapsus pharyngé. Et puis, il y a aussi la graisse qui est ailleurs, qui est au niveau de l'abdomen en particulier, au niveau de la paroi, de la cavité abdominale et autour du thorax, qui vont faire que ça va augmenter la charge respiratoire, diminuer le volume respiratoire avec un volume intrathoracique réduit et diminuer l'activité diaphragmatique. De cela fait que ces enfants vont très mal répondre à la chirurgie ORL. Quand on va les opérer par les amygdales et des végétations, on va avoir la majorité des enfants qui ne vont pas répondre au traitement. Et je vous rappelle que grâce à cette épidémie d'obésité, alors que En 1990, on avait à peu près 15% d'enfants obèses parmi ceux qui consultaient pour apnée du sommeil. Actuellement, il y en a près de 50%. Comment faire pour les améliorer? La CPAP marche bien. Ce sont des patients qui vont avoir de meilleurs résultats scolaires, qui vont avoir une meilleure vigilance, une meilleure qualité de vie à l'école d'après les parents, mais qui en fait ne suivent pas leur CPAP, puisqu'on va avoir moins de 50% des adolescents qui vont suivre ce traitement-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? La chirurgie bariatrique, elle est acceptée chez ces enfants. Il y a des séries qui rapportent des essais, des traitements jusqu'à des enfants aussi jeunes que l'âge de 11 ans. Et là, c'est une méta-analyse qui a évalué et la fréquence des apnées du sommeil et de l'asthme chez les enfants obèses et les résultats de la chirurgie bariatrique. Vous voyez que pour les apnées du sommeil et pour l'asthme, la prévalence parmi ces différentes séries, la prévalence moyenne était autour de 20%. Donc 20% des patients étaient soit obèses et 20% étaient asthmatiques. Combien étaient améliorés? Beaucoup, quasiment tous, quand on les opérait pour les faire maigrir quand ils avaient une apnée du sommeil. Par contre, dans l'asthme, il n'y en avait que 60% qui étaient améliorés et pas guéris, ce qui prouve bien que l'asthme, c'est quand même une maladie multifactorielle. Alors, que faire d'autre quand ils sont petits? Il faut les prendre en charge le plus tôt possible. Pas se dire, ils sont mignons, ils sont... Non, il faut prendre en charge les choses très très vite, mais par des composantes multifactorielles. Il faut les faire bouger, il faut améliorer leur comportement alimentaire et leur hygiène alimentaire, et ça par l'éducation des enfants et l'éducation des parents. En sachant que vous ne devez pas faire maigrir les petits-enfants, il faut simplement ralentir leur prise de poids ou les empêcher de grossir. Et il faut savoir aussi que ce n'est pas l'école qui peut les soigner. Par contre, l'école, c'est un excellent moyen de prévention. Et là, c'est une étude libanaise qui le prouve bien, que quand on prend en charge ces enfants, les enfants de façon globale à l'école, en impliquant les parents, l'éducation, le système scolaire, les marchands de fast-food autour de l'école, on peut avoir de très bons résultats avec une très nette amélioration des connaissances et de la taux prise en charge et la moindre consommation de boissons sucrées et de snacks à haute énergie. Donc tout ça, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui est important, qu'il faut absolument qu'on s'en occupe, mais qu'en même temps, il faut absolument qu'on se rappelle que ce sont des enfants qui sont souvent stigmatisés à l'école, souvent maltraités. Dès qu'ils grandissent un peu, qu'ils ont 7-8 ans, quand vous voulez les ausculter, ils n'osent même plus enlever leur t-shirt. Donc faites-y attention, soyez gentils. Et puis, notre propos pneumologue, c'est de nous occuper de leurs problèmes respiratoires. Donc ne focalisez pas sur le poids. Merci beaucoup. Thank you.